Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Emma, c'est la Benjamine de ce podcast. Elle est fraîchement diplômée éducatrice spécialisée depuis juin 2022, après avoir obtenu un DUT carrière sociale. Elle est venue livrer son parcours et parler en toute humilité de ce qui est facile quand on démarre, mais aussi ce qui l'est moins. Elle anime une page Instagram appelée Emma Eduxpé, où elle alimente au quotidien des informations pour les futurs étudiants, les étudiants en cours de formation, mais aussi les professionnels qui voudraient découvrir de nouveaux horizons. Merci à elle et belle écoute à vous. Bonjour Emma et merci d'avoir accepté mon invitation pour témoigner sur le podcast La Voix des Invisibles. Je vais laisser te présenter, nous dire ton prénom, ton âge et depuis quand tu es dans le social.
Bonjour, alors moi c'est Emma, j'ai 23 ans et je suis diplômée éducatrice spécialisée depuis juillet 2022.
D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené dans le social ? Pourquoi ? Enfin voilà, tout ton petit cheminement.
Alors moi à l'origine je voulais travailler avec les enfants. J'ai passé par plusieurs métiers. À une époque, je voulais être juge pour enfants, puis je me suis rendu compte que le droit, ça n'allait pas être possible pour moi. Et je me suis orientée à un moment vers éducatrice de jeunes enfants. Et au moment où je suis rentrée au lycée, j'étais en pleine réflexion par rapport à ça, où je me disais, bon, j'aime bien les enfants, j'aime bien m'en occuper, etc. Mais est-ce que vraiment travailler qu'avec les enfants, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas me lasser ? D'être vraiment qu'avec ce public-là. D'accord. Et au même moment, j'ai ma maman qui faisait une reconversion professionnelle pour être éducatrice spécialisée. Et donc, avec tout ce qu'elle pouvait m'en dire, je me suis dit, bah, au final, c'est peut-être plus ce métier-là qui va plutôt me plaire parce que bah, si j'ai envie d'être avec les enfants, je peux travailler avec les enfants, mais je peux bah, tout autant, enfin, changer aussi et travailler avec un autre type de public. C'était beaucoup plus varié et c'est ce qui me plaisait le plus. Donc du coup, j'ai fait un bac SC2S pour m'orienter du coup dans le social ensuite. Mm-hmm. Et j'ai fait un DUT carrière sociale option éducation spécialisée parce que j'avais pas été retenue quand j'avais postulé en école de travail social.
D'accord.
Donc j'ai fait mes 2 ans de DUT et ensuite j'ai fait 2 ans à l'IRTS.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà du DUT et après nous expliquer le pont que tu as pu faire entre le DUT et l'IRTES ?
Ouais, donc moi je suis rentrée en DUT en 2018, donc c'était juste avant la nouvelle réforme, là d'il y a un an, qui passait le DUT en, de 2 ans, 3 ans, donc moi j'ai vraiment fait sous la forme en 2 ans. Mm-hmm. Donc c'est un DUT qui nous permet d'avoir en fait des cours vraiment sur l'éducation spécialisée, sur... différents publics, enfin sur des concepts, voilà, vraiment sur l'éducation spécialisée. Et on avait 3 stages dans mon DUT à faire. Donc d'accord. Du coup, en première année, j'ai fait 2 stages, un stage de 8 semaines en foyer d'accueil médicalisé, où j'étais avec des adultes autistes.
D'accord.
Et j'ai fait un 2e stage de 9 semaines dans un accueil de jour inconditionnel avec des personnes en grande précarité.
Ok.
Et en 2e année, j'ai fait... mon stage le plus long, donc de 14 semaines dans un centre maternel et un centre parental, et j'ai écrit un mémoire dessus sur la place des pères dans l'accompagnement des familles.
Ok, voilà. Et alors du coup, je découvre hein, qu'il y avait des stages du coup. Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça, toi ces stages, comment ton premier stage tu l'abordes, puis le second, puis le troisième, comment tu vois un peu, comment tu découvres un peu tout ça, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
Alors, faut savoir que les deux premiers stages que j'ai faits, c'est des endroits où ma mère, elle, avait été en stage. Donc, je connaissais un petit peu, on va dire, de loin les structures, le public. Sachant que dans un autre stage où ma mère était, j'y étais déjà allée plusieurs fois parce qu'ils font ce qu'on appelle des sortes de soirées deux fois par an, si je me souviens bien, où en fait c'est, donc c'est un hôpital de jour pour des personnes en situation de handicap aussi. Et du coup, ça leur permettait de pouvoir un peu devenir autonome sur le service, etc. Je sais pas trop si je suis claire. Et du coup, j'avais déjà été dans ce, sur ces soirées-là, parce que du coup, il y avait une éducatrice qui travaillait là-bas, qui est une personne qui habite dans mon quartier, donc que je connais depuis très longtemps. Et du coup, j'avais déjà eu, on va dire, une première approche avec un peu le handicap de loin, on va dire. Parce que bon, je travaillais pas là-bas, mais c'était, j'avais déjà été, on va dire, confrontée à ce type de public-là. Et du coup, moi, je sais que j'avais déjà réfléchi avant mon entrée en DUT à comment j'allais découper mes stages pour faire mon premier stage dans le handicap, parce que du coup, je pouvais rentrer, on va dire, facilement en stage dans le foyer d'accueil médicalisé, puisque bah, ma mère y avait travaillé.
D'accord.
Donc, voilà, un peu par piston. Et je savais que le dernier stage, le plus long, je voulais le faire en protection d'enfance, parce que c'est ce qui m'attirait le plus.
Pourquoi ça t'attirait plus déjà dès le départ ?
Je pense que c'est le fait que soit, je sais pas, déjà le public, c'est des enfants, donc comme je l'ai dit, je voulais être avec les enfants. Et je sais pas, franchement, j'ai jamais eu d'explication vraiment sur pourquoi je voulais plus travailler en protection de l'enfance que dans un autre domaine.
Mais en tout cas, c'est un milieu qui t'a toujours un petit peu attiré, quoi. Ok, donc tout était déjà très réfléchi avant pour ton déroulé des 2 ans, quoi.
Ouais, et je voulais du coup pour mon autre stage entre les deux, en fait je voulais toucher à tous les domaines pour pouvoir être plus libre à l'IRTS, de pouvoir choisir là où je voulais aller et pas qu'on me dise bah non, t'as fait trop de stages par exemple dans tel domaine, t'as pas touché à tel domaine, donc faut absolument que tu fasses un stage dans l'autre domaine, tu vois.
Parce que ton projet quand tu rentres en DUT, c'est de faire le DUT et d'intégrer l'IRTS après.
Ouais, c'est en ça.
Il y a pas, tu t'es pas dit, finalement vu que l'IRTS ça n'a pas fonctionné, je vais faire le DUT puis on verra ce que je peux faire avec le DUT.
Non, toi, ton objectif, pas du tout, c'était... parce qu'en fait le DUT donne pas le diplôme d'État.
D'accord. Et qu'est-ce qui, donc, du coup, c'est quoi les débouchés avec le DUT ?
Donc alors soit tu peux quand même travailler dans le social, mais t'as plutôt une équivalence moniteur éducateur. Mais d'accord. Vu que t'as pas le diplôme de moniteur éducateur, c'est pas dit que les structures puissent t'embaucher vraiment en tant que moniteur éducateur. Donc tu peux être embauché comme sans diplôme.
D'accord.
Donc au niveau de la paye, t'es encore moins bien payé, quoi, on va dire. Et après, sinon tu peux, en tout cas moi quand j'y étais, vu que c'était en 2 ans, tu pouvais rentrer en L3 sciences de l'éducation.
D'accord.
Et continuer du coup sur un parcours. En fait, le DUT, ça donne un diplôme universitaire, donc après, ça pouvait permettre de continuer sur un diplôme, enfin sur un parcours universitaire si la personne veut plutôt s'orienter vers un master plus tard, quoi.
Ok, d'accord. Donc oui, plutôt dans une visée de poursuite, mais rentrer sur le terrain, c'est peut-être pas ce qui est le plus engageant. Ok, d'accord. Dans tes différents stages, du coup, comment est-ce que tu te dis quand t'es en situation de stage, est-ce que tu te sens à ta place ?
Ouais. Est-ce
que
alors
tout de suite, tu te dis ok, je confirme, c'est bien là que je veux être, ou est-ce que pas ?
Oui, complètement. C'était vraiment Donc je me disais, c'est vraiment ce que je veux faire, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu plein de fois où je pensais pas du tout valider mon DUT au niveau des notes, etc. Machin. Donc plusieurs fois, je me suis dit, mince, si je réussis pas mon DUT, est-ce que vraiment je vais continuer là-dedans, essayer d'entrer en école, machin, est-ce que je vais totalement changer de voie ? Et en fait, je me vois pas faire autre chose. Il y avait rien qui me... Vraiment, je me disais, je peux en faire mon métier, tu vois. Et c'est vrai que... sur le terrain, après, je pense qu'on en parlera plus longuement peut-être après, mais c'est vrai que j'ai eu j'ai un gros manque de confiance en moi et plusieurs fois je me suis dit mais est-ce qu'une fois diplômée je vais réussir vraiment à gérer sans, tu sais, le truc de je suis en stage donc il y a toujours quelqu'un au-dessus de moi qui tu sais, qui me cadre, on va dire.
Il y a une sorte de légitimité que du coup tu avais un peu du mal à... Ok, ouais. Ouais, effectivement on y reviendra puisque l'idée de ton témoignage aussi c'était de pouvoir éclairer un petit peu les étudiants des diverses écoles du travail social sur ton parcours du coup par le DUT et puis tes 2 ans à l'IRTES et puis aussi tes premières senties un petit peu sur l'arrivée sur le terrain qui est assez récent pour toi mais qui quand même déjà fait quelques mois. Ok.
Ouais.
Donc, tu obtiens ton DUT.
Ouais, c'est ça. J'ai obtenu mon DUT du coup en juin 2020. Et donc, parce que du coup, depuis quelques années maintenant, pour entrer en école de travail social, c'est via Parcoursup.
Ouais.
Donc, pendant l'ouverture de Parcoursup, donc début 2020, j'avais postulé dans différentes écoles pour pouvoir continuer mon parcours. C'est vrai qu'à une époque, en fait, l'année avant que j'entende AUT, on pouvait rentrer directement en troisième année de formation, donc faire que 3 ans, du coup, en tout, devant D'accord. DUT, plus 1 an. Et c'est vrai que moi, l'année où je suis entrée en DUT, en fait, il y a eu une réforme et ils ont supprimé cette passerelle d'un an.
D'accord.
Donc, je me souviens que c'était hyper flou et c'était vraiment la panique pour quasiment toutes les personnes de mon DUT. Parce qu'en fait, dans les textes, c'était encore plus flou qu'avant et c'était même pas sûr qu'on avait le droit à 2 ans d'aménagement. Et certaines écoles, surtout hors Île-de-France, parce que moi je suis en Île-de-France, pouvaient dire, en fait, on vous prend première année avec peut-être des aménagements, quoi, ou des allègements, mais c'était même pas sûr. Donc c'était vraiment le gros flou pendant toute la période Parcoursup pour savoir si on allait faire 2 ans ou 3 ans, comment ça allait se passer. Donc moi j'avais postulé donc dans 3 écoles, 2 sur Parcoursup, mais 2 sur Parcoursup et 1 hors Parcoursup, parce que pour celle qui était hors Parcoursup, c'était pour la passerelle pour entrer en deuxième année.
D'accord.
Il s'était arrangé comme ça. Et donc, j'ai été reçue dans une des 3 écoles que j'avais postulées.
D'accord. Et donc là, qu'est-ce que tu te dis là quand tu es reçue?
D'un côté, j'étais contente parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai quand même une école. Parce que c'est vrai que les 2 autres où j'avais postulé, il y en avait une qui m'avait refusée et une où j'étais en liste d'attente. Donc, je me suis dit, si j'ai pas d'école, c'est mal barré, quoi. Et après, d'un côté, j'étais quand même un petit peu... On va dire que j'étais un peu... Comment dire ? Un peu dans une sorte d'ambivalence où je me disais, c'est cool parce que du coup, je fais 2 ans, donc ça me permet toujours au niveau de la confiance en soi, etc., d'avoir du coup 2 stages de plus pour vraiment me dire, c'est bon, je suis prête.
Mm-hmm.
Et en même temps, où je me suis dit, punaise, 2 ans, c'est super long quand même. Et ça me saoule parce que si j'étais rentrée 1 an avant en DUT, j'aurais pu avoir la passerelle qui a mis directement 3e année.
Et maintenant, avec le recul, est-ce que tu te dis que les 2 ans étaient nécessaires ou est-ce que non, c'est 1 an, ça peut le faire aussi et tu te sentirais autant armée que si tu avais fait 2 ans?
Honnêtement, pour la confiance en soi, 2 ans, c'était nécessaire. Parce
D'accord.
que surtout, en fait, mes 2 stages que j'ai faits m'ont vraiment permis de vraiment prendre confiance en moi. Et c'était surtout, en fait, c'était surtout ça mon but en rentrant en école. C'était vraiment que ces 2 ans vraiment me... Voilà, je puisse prendre confiance en moi. Et après, sur le plan des apprentissages vraiment de l'école, etc., les 2 ans m'ont servi à rien, parce que dans mon école, on a très très peu de cours d'éduc. Et en fait, moi, toutes les connaissances vraiment théoriques que j'ai, c'est ce que j'ai appris en DUT et pas forcément à l'IRTS, quoi.
Alors, quand tu dis vous avez très peu de cours d'éduc, c'est-à-dire ?
En fait, moi, mon école, avant la réforme qui passe, tu sais, en grade licence,
ouais.
Il y avait déjà une licence.
D'accord.
C'était déjà le cas. En fait, ça fait des années et des années que mon centre de formation ont la licence.
D'accord.
Et en fait, le partenariat avec la fac prend énormément de place et on a quasiment que des cours de licence et très peu de cours vraiment sur l'éducation spécialisée. Après, évidemment, il y a des cours qu'on peut avoir, enfin, qui servent aussi pour l'éducation spécialisée, mais c'est pas vraiment... Enfin, on n'a pas beaucoup d'interventions vraiment, comme dans d'autres écoles. Sur 2 ans, j'ai dû avoir peut-être 10 d'interventions.
Tu veux dire des interventions de professionnels ou ou de formateurs spécialisés sur le travail social.
Ouais.
Ok. C'était la licence sciences de l'éducation qui a été dispensée
Alors
en
maintenant,
même temps.
Maintenant, c'est ça. Depuis l'année dernière, pour les premières années, moi, c'était sciences sanitaires et sociales.
Du coup, quand tu arrives en septembre 2020 dans ton école, quels sont un peu tes premiers ressentis, les premières comparaisons aussi que tu fais naturellement entre le DUT et l'IRTS?
Du coup, comme je disais, je me suis très vite rendu compte que j'allais pas avoir beaucoup d'apport vraiment sur l'éducation spécialisée en elle-même, même mm-hmm. si, comme je disais juste avant, il y a quand même des cours que j'ai eu en licence qui nous servent et qui sont sur le social, etc. Évidemment, il y a quand même des trucs qui étaient intéressants pour nous. Et en même temps, je me sentais... comment dire c'est vrai que la deuxième... En fait, nous, sur la deuxième année, on a notre stage long sur quasiment toute la deuxième année.
D'accord.
Donc, du coup, c'était moitié cours, moitié stage. Donc, vu que j'étais quand même la moitié du temps en stage, je me sentais super bien parce qu'en plus, j'étais en stage dans la structure où je travaille actuellement. Et c'est vrai que c'est vraiment le stage où j'ai vraiment pu prendre énormément confiance en moi et où je me sentais vraiment bien, que ce soit dans l'équipe, dans la structure, dans le travail qui était fait. Et du coup, je me suis sentie assez bien quand même pendant ma formation et en deuxième année, surtout, du coup, comme je disais, grâce à mon stage.
Mm-hmm. Du coup, ton stage, ton premier stage, mais de deuxième année, tu le fais où?
Ouais, donc du coup, c'est un stage de 9 mois que j'ai fait en service de placement à domicile.
D'accord.
Donc en protection de l'enfance.
Ok. Alors vas-y, dis-nous un petit peu tes premiers ressentis sur du placement à domicile. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà un petit peu appréhendé ? Tu nous as dit que ton stage 3 en DUT, tu l'avais fait en protection de l'enfance.
Ouais, en centre maternel et centre parental.
Voilà.
Alors, c'est pas forcément le type de structure que je recherchais, parce que je savais même pas que ça existait. C'est comme des services qui ont tendance à se généraliser, mais qui sont pas forcément encore très répandus, on va dire.
Mm-hmm.
Et pas forcément très connus en formation. Par exemple, en protection de l'enfance, on nous parlait de centre maternel, de foyer, d'AEMO, d'AED, mais pas forcément de placement à domicile. Et en fait, je l'ai trouvé vraiment par hasard. En plus, vu qu'on ressentait de la crise sanitaire, c'était hyper compliqué pour trouver un stage. Alors déjà, les stages gratifiés, c'est déjà la galère. Mais alors, en même temps que le Covid, c'est encore plus compliqué.
Ouais, j'imagine.
Et je sais que... Alors moi, je recherchais principalement protection de l'enfance parce que comme j'avais déjà touché un peu handicap et à l'insertion dans DUT, j'avais pas ce truc, comme je te disais, de me dire « faut absolument que je fasse dans le handicap ou dans l'insertion » et je pouvais un peu choisir là où je voulais aller.
Mmh.
Donc, vu que je restais un peu dans l'optique de travailler en protection de l'enfance, je m'étais dit que j'allais chercher le plus possible en protection de l'enfance. Donc, j'avais pas mal postulé pour des MECS, pour de l'EMO, enfin pour du milieu ouvert. Et après, j'avais aussi élargi quand j'ai vu que vraiment, c'était la cata pour trouver des stages. Et en fait, ce stage-là, j'ai trouvé par hasard, par Facebook, en fait, parce que vraiment, je trouvais tellement pas que... Tu sais, sur Facebook, t'as des groupes d'éducateurs.
Oui.
Et donc, j'avais fini par dire, c'est compliqué, ça fait des mois et des mois que je cherche, j'ai envoyé des centaines de lettres de motivation, de CV, mais je trouve rien. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des pistes pour moi en Ile-de-France, en protection de l'enfance ou dans d'autres domaines ? Parce que, bon, vu que...
Ouais, au bout d'un moment, t'as élargi.
Un mois du stage, il fallait élargir, quoi.
Bien sûr.
Et en fait, la chef de service a vu mon truc et m'a contacté en me disant, envoyez-moi un message et on en discute.
Trop bien.
Et en fait, à la base, elle me parlait plutôt des mecs. Parce qu'en fait, le service de placement à domicile où j'étais, là, ça fait 3 ans ce mois-ci qu'il a ouvert. Et donc, quand j'étais, ça faisait 2 ans. Et elle trouvait que c'était un peu juste pour les équipes. Parce que ça faisait que 2 ans sur un territoire où ça commence tout juste à généraliser. Donc, elle avait peur qu'au niveau des équipes, c'est un peu compliqué d'accueillir un stagiaire. Parce que je peux totalement comprendre. Il vaut mieux ça plutôt qu'on prenne des stagiaires et que ça se passe mal parce que c'est compliqué avec les équipes. Et donc, elle me parlait plutôt des mecs. Donc, je lui dis, pourquoi pas, moi, je prends tout. Je suis à 3 semaines du stage. On va pas chipoter, quoi. Et en fait, sur les mecs, ça n'a pas pu se faire parce qu'en fait, elle avait déjà des stagiaires sur sa mecs. Et elle voulait pas en avoir trop. Donc, elle m'a dit, finalement, je vous prends sur le service de placement à domicile.
Très bien.
Donc, je crois qu'on allait signer les conventions le vendredi pour le lundi, tu vois. Vraiment.
Juste.
Ouais, okay. Ouais, c'est clair. Vraiment, le gros, gros stress.
T'es accueilli par une ou deux personnes référentes. Comment ça s'organise un petit peu ?
Alors, du coup, j'avais un rêve. Du coup, le temps d'organiser ma venue, j'ai commencé mon stage une semaine après parce que le vendredi pour le lundi, c'était trop compliqué. Et donc, j'ai été accueillie par mon référent de stage qui était un éducateur qui était proche de la retraite et donc qui avait déjà fait une grosse carrière, on va dire.
Mm-hmm.
Et du coup, alors dans l'équipe où j'étais, parce que du coup, dans le service, donc c'est là où je travaille actuellement, comme je te disais, en fait, il y a 3 équipes. Et du coup, moi, j'étais vraiment sur la première équipe qui est arrivée à l'ouverture du service, et donc l'équipe la plus ancienne sur le service.
Okay.
Donc, j'étais tout de suite très, très bien accueillie par l'équipe, que ce soit par mon référent de stage ou par mes collègues, et même pour mes collègues des autres équipes, vraiment, j'étais très, très bien accueillie. Et vraiment, j'ai pu avoir une vraie prise de responsabilité et d'autonomie dans mon stage. C'était vraiment hyper intéressant.
Il t'a laissé... Tu disais tout à l'heure, on a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Finalement, là, ouais. C'était plus, il s'est mis en mode, je suis ton filet, vas-y. Et puis, si t'as besoin, tu t'appuies sur moi, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, okay. comme je disais, il était proche de la retraite. Il commençait à être très fatigué. Et en fait, c'était aussi une manière aussi pour lui un peu de, comment dire, de aussi commencer à préparer sa retraite, puisque vraiment, j'ai fini mon stage le 30 juillet, lui, il est parti en congé le 29 juillet, puis directement après, en retraite, tu vois.
D'accord, donc vraiment, c'était un passage de relais, quoi.
Ouais, c'est ça, et du coup, vu qu'il voyait que j'étais assez confiante et que je m'en sortais bien, du coup, il me laissait faire énormément de choses que peut-être qu'à d'autres stagiaires, ils auraient peut-être pas laisser autant de responsabilités.
Et en même temps, tu avais déjà 2 ans de pratique et de connaissances, donc tu n'étais pas toute neuve, entre guillemets, dans le milieu. Ok. Les premières fois où tu interviens chez des parents en placement à domicile, quelles sont un peu tes appréhensions, si tu en as eu, tes ressentis? Est-ce que finalement tu étais très, très excitée à l'idée de pouvoir intervenir seule ou même avec quelqu'un? Enfin voilà, quelles ont été un peu tes émotions à ce moment-là?
Et alors moi, je suis jamais intervenue seule au domicile parce que la direction voulait pas trop laisser des stagiaires seuls, ce que je peux comprendre.
Okay.
Parce que c'est vrai que l'intervention au domicile, ça peut être très compliqué, même pour les familles. Hein. Surtout quand c'est contraint, que les familles veulent pas du tout de professionnels qui comprennent pas la mesure. Ça peut être très très compliqué déjà quand on est professionnel, donc quand on est stagiaire. Donc c'est vrai que j'ai toujours intervenu soit avec mes collègues, soit avec mon référent de stage. Mais j'ai pas forcément eu d'appréhension parce que je pense que je savais que j'étais pas seule du coup et que et on m'avait bien expliqué les choses. Donc j'ai pas eu forcément d'appréhension. Mais je sais que j'ai beaucoup aimé ce côté de vu qu'en plus le placement à domicile c'est souvent un peu, on va dire, le dernier recours avant le foyer. Le fait de se dire là on travaille justement pour éviter ce placement au foyer et que l'enfant reste à domicile dans la mesure du possible. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, on travaille beaucoup plus avec les familles que, par exemple, en foyer ou dans certains foyers, on ne travaille pas forcément du tout avec les familles.
Oui, bien sûr, t'intervient au domicile. Donc, de fait, tu les vois beaucoup plus et c'est un accompagnement à la parentalité beaucoup plus soutenu que... Ouais. Ok.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des situations qui te sont restées en tête sur ce stage-là où tu t'es dit ça, je pense que je vais m'en rappeler longtemps ou pas?
Ouais, toutes les situations, je pense que j'y suis parce que du coup, l'avantage du placement à domicile, en tout cas dans celui où je travaille, c'est qu'on a 5 enfants par professionnel.
D'accord.
Donc on n'est pas du tout. Ouais. Okay. Parce que en fait, on intervient 2-3 fois par semaine au domicile pour chaque famille. Donc on ne peut pas avoir, comme en AMO, des dizaines et des dizaines de situations par éducateur.
Oui, bien sûr.
Donc, pour qu'on puisse intervenir 2-3 fois par semaine. Donc, ouais, j'avais 5 situations et elles me sont toutes restées en mémoire. Surtout une, de même que j'ai quittée en stage et que j'ai retrouvée en tant que salariée ensuite.
D'accord, ok.
Donc, parce que du coup, moi, j'ai commencé cet été en CDD sur mon équipe de stage. Et donc, j'ai retrouvé une situation que j'ai suivie qui est toujours chez nous et qui devrait partir bientôt, j'espère, mais qui est toujours chez nous. Et quand je suis passée en CDI en octobre sur une autre équipe, du coup, là où il restait un poste, j'ai retrouvé en fait une situation que j'ai suivie tout mon stage, une situation qui était qui m'est vraiment restée en mémoire et c'est celle qui m'a touchée le plus, je pense, pendant mon stage, qui était très compliquée aussi, parce que c'était une situation vraiment très compliquée. Et en fait, c'est des enfants qui ont été placés quelques mois après que j'ai fini mon stage. Et là, qui sont retournés au domicile avec, du coup, quand même le retour d'une mesure de placement à domicile. Mm-hmm. Et en fait, qui sont partis sur mon équipe de stage parce que vu que ça avait déjà été le cas avant, ça allait être... ça aurait pas été bénéfique, en fait, pour la famille. Et en fait, qui sont arrivés sur l'équipe où moi, je suis allée ensuite en CDI.
D'accord.
Et donc, que je retrouve là et... pour qui j'ai récupéré la référence.
D'accord, parce que tu les connaissais déjà un petit peu.
Ouais, alors ils sont arrivés avant que je retourne, enfin que je change d'équipe. Donc okay. À la base, j'étais pas du tout sur la référence. Mais en discutant avec le référent AZE, etc., on s'est dit qu'il fallait vraiment un professionnel par jeune. Et vu qu'ils sont 3 jeunes, il fallait 3 éducs. Donc du coup, on m'a mis sur la référence d'un des enfants.
D'accord. Pourquoi c'était une situation compliquée?
C'est une situation assez compliquée parce que c'est des enfants qui, auraient dû être placés depuis bien longtemps et qui n'auraient pas dû retourner chez eux parce que, clairement, ils vivaient dans des conditions où ils étaient en danger tout le temps parce qu'ils vivaient chez le père ne pouvait pas s'en occuper, ils vivaient dans un squat, il y avait vraiment beaucoup de choses qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas rester au domicile, honnêtement. Ils n'étaient pas en sécurité là-bas. Et là, le juge a voulu retenter un retour domicile, mais chez la maman cette fois, mais on se rend bien compte que ça va pas non plus, quoi. Et moi, quand j'étais en stage, les enfants, la petite fille de même pas 10 ans qui te demande régulièrement pourquoi, si elle peut venir vivre chez toi et pourquoi c'est pas toi sa mère. Bon.
Ok, et alors, comment t'accueilles ça quand t'es étudiante en formation C'est des mots qui sont durs à entendre, à encaisser un petit peu. Comment tu réagis ?
Alors, c'est vrai que quand j'étais en stage, bon, je sais que j'en ai déjà pas mal parlé en vrai sur Insta et tout, mais quand j'étais en stage, c'est vraiment une situation au début sur laquelle je me suis beaucoup remise en question, parce que quand j'ai commencé mon stage, donc la femme était déjà là, et la petite, donc cette petite fille-là, elle s'était déjà beaucoup attachée à moi, pour plein de raisons au niveau de sa famille, et c'est vrai que sur le coup, quand elle a commencé à me dire des phrases comme ça, ou elle a commencé en me disant, voilà, en fait, on parlait, parce que je faisais un temps de scolarité avec elle, et on parlait des dates, du coup, du temps que j'allais faire avec elle, et je lui avais expliqué qu'on ferait jusqu'à la fin de l'année scolaire, et après, au mois de juillet, on n'allait pas en faire, parce que, voilà, elle n'allait plus à l'école pour l'été, et que j'allais un peu la laisser tranquille pour l'été, quoi. Et je lui ai bien dit, après, au mois d'août, moi, voilà, j'aurai fini mon stage, donc je ne serai plus là, donc ça va s'arrêter. Et en fait, directement, elle m'a dit « Quoi ? Mais tu vas partir ?» J'ai dit « Oui ». Et elle me dit « Mais tu vas revenir me voir ?» Donc j'explique que « Bah non, je peux pas ». Et elle me dit « Mais moi, je veux vivre avec toi ». Mais tu sais, vraiment, naturellement, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai que sur le coup, bah voilà, je lui explique que c'était pas possible. Et puis tu sais, en tant qu'éduc, t'essaies de creuser un peu, tu vois, pourquoi elle te dit ça. Donc tu me demandes « Bah, pourquoi ça se passe pas bien à la maison ?» Enfin, voilà, t'essaies de creuser un peu.
Bien sûr.
Elle me dit « Non, c'est pas ça, mais moi, je vivrai avec toi. » Et c'était hyper compliqué pour moi à accueillir ça comme propos, parce que c'est vrai qu'en formation, on va beaucoup te dire qu'il faut mettre de la distance, etc. Enfin, on va beaucoup te parler de la distance, de la... Enfin, tout ce truc-là. Et sur le coup, tu te dis « Mince, est-ce que j'ai mis assez de distance ? Est-ce qu'elle n'est pas trop, entre guillemets, attachée à moi ?» Et vraiment, ça a été une grosse, grosse remise en question. Où j'en ai beaucoup discuté avec une amie qui avait été en DUT avec moi. Et où à un moment, en fait, je me suis juste rendu compte que, bah, en fait, c'était pas forcément trop. Et que, en fait, c'est une petite fille qui. Comment dire ? Moi, je me voyais pas quand t'as un enfant comme ça qui subit beaucoup de ruptures, qui a des carences, etc. Je me voyais pas. Juste lui rappeler qu'il faut mettre de la distance, tu vois, et lui dire de ne pas s'attacher à moi. Enfin, j'ai de vulgariser un peu la chose.
Bien sûr, oui, je vois ce que tu veux dire.
Et du coup, je me suis juste rendu compte, en fait, à force, que bah, en fait, c'était ce dont cette petite fille-là elle avait besoin à ce moment-là, de cette proximité entre elle et moi, mais qu'elle savait très bien que je ne serais pas sa mère et qu'il y avait quand même ce côté éduc. Et ça, dès qu'elle me disait qu'elle voulait vivre avec moi ou quoi, je lui rappelais que voilà, elle avait sa famille, que moi je suis éducatrice et qu'il n'y avait pas. Enfin, c'était pas possible, quoi. Et je sais que j'avais très peur en finissant mon stage que ce soit compliqué pour elle, et au final, ça s'est très très bien passé.
Tu l'avais préparé à ton départ. Est-ce que tu as pu en parler en séance d'analyse de la pratique, ou avec tes collègues, ou avec tes formateurs?
En formation, j'en ai beaucoup parlé en analyse des pratiques. Ça m'avait pas mal aidé aussi, et j'ai fait en fait un de mes dossiers sur ce thème-là, justement, sur l'attachement en éducation spécialisée.
D'accord.
Qui m'a aussi beaucoup, et je me souviens qu'en l'écrivant, je me suis aussi rappelé une situation que j'avais vue quand j'étais en centre maternelle en DUT, où au final, y avait une maman que je suivais, que j'avais en référence, qui avait une quarantaine d'années, tu vois, donc bien plus âgée que moi. Parce que moi, j'avais été en centre maternelle, j'avais 19-20 ans, tu vois, quand j'étais en centre maternelle. Et au final, je me suis rendu compte que elle s'est attachée à moi, que je m'étais attachée à elle aussi, parce que même encore aujourd'hui, tu vois, des fois, j'y pense en me disant... tiens, je me demande ce qu'elle est devenue, parce que je sais que j'avais un très très bon lien avec elle, et je me suis dit, mais là, tu vois, genre, j'ai pas tout ce truc de me dire, mince, est-ce que je suis pas trop attachée, machin, enfin, tu vois ce que je veux dire, pour cette petite fille-là, j'ai cette réflexion-là, et où je me suis dit, en fait, c'est juste que, on a juste cette distance qui s'adapte entre les personnes, et c'est pas parce que, comment dire, c'est qu'on est tous humains et que forcément tu vas, en tant qu'éduc aussi, forcément t'attacher à des personnes avec qui tu as travaillé et les personnes aussi. Donc c'est aussi grâce en écrivant ce dossier-là, en fait, aussi, où je me suis dit, en fait, ça va.
Et ça t'a permis de poser un petit peu les choses
c'est ça.
À plat, et de pouvoir réfléchir, analyser aussi le comportement de cette petite fille, le pourquoi du comment, en tout cas, elle t'investit, elle réagit comme ça avec toi.
Ouais, c'est ça. Et je sais que j'en ai beaucoup parlé à mon référent de stage aussi, en fait, à chaque fois qu'elle me sortait des phrases comme ça, et lui, en fait, tout ce qu'il disait, c'était « oui, mais elle l'attache à toi, c'est normal ». Voilà,
C'est une façon rapide de le dire, mais c'est, ouais. tu l'as bien dit, c'est des humains, quoi. Qui nouent des liens. Et effectivement, quand c'est des enfants, les mots d'enfant peuvent être parfois un petit peu déroutants.
Ouais.
Ok. Tu es donc en deuxième année quand tu fais ce stage-là. Tu abordes comment la troisième année ?
Moi, j'étais tranquille toute ma formation. En fait, quand tu fais le DUT, et je sais que ça, je sais que j'en ai beaucoup parlé avec mon référent. Alors, dans mon école, on appelle ça référent GEP, mais je sais que dans les autres écoles, ça s'appelle pas comme ça. Mais tu sais, c'est un peu
les référents
de suivi. C'est qui te suit. Ouais. Ouais, c'est ça.
Ok.
Et j'en ai beaucoup parlé avec lui parce qu'en fait, tous les gens de mon groupe, justement, de suivi, étaient toujours hyper stressés en mode oh my god, on a plein de trucs à faire, mon dieu. Et moi, j'ai toujours hyper tranquille parce qu'en fait, en DUT, le rythme est tellement dense par rapport à, en tout cas, moi, à mon IRTS.
Ok.
Que vraiment. J'étais très très tranquille et je sais que j'étais quand même bien à jour sur mes dossiers de certification et donc j'étais pas forcément hyper stressée par rapport à la troisième année, tu sais, finir tous les dossiers, machin.
Bien sûr.
Donc j'ai abordé assez tranquillement.
Est-ce que du coup, tout à l'heure tu disais que quand t'es rentrée, il me semble, donc c'est septembre 2020, on est encore en plein dans le Covid, alors plus forcément de confinement, mais en tout cas, beaucoup de cours sont encore en distanciel. Est-ce que...
Mes cours avaient été en distanciel et on avait quand même eu un petit confinement quand même en 2020.
Un petit confinement et puis on devait vraiment restreindre tous nos déplacements les week-ends, etc. Est-ce que toi, du coup, t'arrives à pouvoir te constituer un groupe de pairs au sein de l'IRTES, avec qui tu peux échanger, vous pouvez vous soutenir, etc. Ou est-ce que cette partie-là, elle est un petit peu difficile au vu du contexte ?
Alors, ça avait été très compliqué même pour toute la promo, parce que c'est vrai que du coup, ceux qui avaient fait la première année dans ma promo, en fait, ils ont commencé leur première année et au milieu de la première année, il y a eu le premier confinement.
Ouais.
Donc au final, en fait, beaucoup de gens au final se connaissaient pas. En plus, dans mon école, c'était grosse promo en EDUXP. On était, je crois qu'ils ont commencé la première année à 90 personnes.
D'accord.
Et généralement, quand même, t'as quand même souvent les gens se connaissent quand même bien, parce qu'on a quand même pas mal de trucs en petits groupes à chaque fois d'une dizaine de personnes. Donc et souvent c'est assez mélangé.
Mm-hmm.
T'es pas toujours dans les mêmes groupes avec les mêmes personnes, etc. Donc généralement, quand même, les gens ils se connaissent bien dans les promos. Et c'est vrai que dans ma promo, bah même ceux qui avaient fait la première année, ils se connaissaient pas tant que ça. Et il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas. Et moi, quand je suis rentrée en deuxième année, en fait, je me suis retrouvée du coup avec une fille qui avait fait le DUT avec moi.
D'accord.
Et donc, on est restés ensemble. Et en fait, elle connaissait une autre fille de la promo qui avait fait aussi un DUT, mais option assistante sociale, et qui était avec deux autres filles de sa promo à elle.
D'accord.
Et du coup, moi, je suis restée avec ma pote de DUT qui, elle, s'est rapprochée du coup de sa pote qu'elle connaissait d'avant, qui était dans l'autre DUT. Et en fait, du coup, on a fait tout un groupe comme ça, avec toutes les nouvelles, en fait, qui étaient rentrées directement en deuxième année. Donc, on était 7, dont 6 où on avait fait un DUT, et une avec qui on avait discuté, mais qui, elle, avait juste fait un transfert de dossier, qui avait été dans un IRTS autre part, et qui revenait en région parisienne, et qui avait fait un transfert de dossier. Et du coup, en fait, on s'est connus toutes les 7 comme ça.
D'accord.
Et c'était vraiment un peu le groupe des nouvelles, tu vois. Genre, on s'était sociabilisés, mais qu'entre nous, les nouvelles. Et moi, c'est vrai que je suis quand même de nature assez timide, et je vais pas forcément vers les gens. Et du coup, il y a d'autres personnes à la promo avec qui je suis un peu rentrée en lien, mais c'était parce que du coup, ma pote de DUT, dans le groupe de médiation où elle avait été, avait rencontré 2-3 personnes, tu vois. Et
d'accord.
Du coup, vu qu'on mangeait ensemble le midi, machin, on s'est rapprochés comme ça. Mais c'est vrai que moi, je vais pas du tout vers les gens, généralement. Mais
okay.
C'est vrai que jusqu'à même en troisième année, je connaissais quasiment pas les gens de ma promo, parce que quand pendant un an, t'es en distanciel à quasiment tous les cours. Parce que nous, vraiment, on n'a quasiment pas été à l'école en deuxième année.
Ouais, ça aide pas du tout à rencontrer les gens sur des temps plutôt informels ou formels, et à créer un groupe, en tout cas, à rencontrer. Ok, d'accord. Deuxième année, du coup, troisième, enfin deuxième année pour toi, mais troisième année, donc l'année de la certification. Tu choisis de faire ton stage de dernière année où ?
Alors du coup, moi, j'ai été en grande réflexion à savoir si, parce que du coup, dans mon école, on pouvait faire la formation en contrat d'apprentissage.
D'accord.
Enfin, en contrat de professionnalisation, mais mon école ne le permet pas en première année. En fait, ils préfèrent qu'en première année, on puisse faire 2 stages tranquillement, là où on veut. Et ensuite, ils autorisent, entre guillemets, de nous passer en contrat de professionnalisation, soit en deuxième année, soit en troisième année. Donc moi, j'avais été en grande réflexion à savoir si... Je demandais un contrat pro, là où du coup, j'avais fait mon stage de deuxième année, parce que j'avais vraiment adoré. Mais c'était un petit peu compliqué sur la fin, parce que du coup, mon référent de stage, j'étais partie en tout congé, puis en retraite. L'autre éducatrice spécialisée de l'équipe, elle était en arrêt pour un moment, et après, les deux autres n'étaient pas éducateurs spécialisés. C'était une CESF et un moniteur éducateur. Donc d'accord. Au niveau des textes, etc., c'était un peu compliqué, tu vois, pour... Et puis du coup, en fait, en plus, ils se retrouvaient du coup à deux sur une équipe de quatre, donc avec le même nombre d'enfants. Et du coup, être passé à cinq enfants par éduc qui passait à dix, donc c'était très compliqué du coup au niveau de l'institution. Donc je m'étais dit, bon, je vais chercher autre part, parce que j'ai pas envie de leur ajouter encore, on va dire, un poids, tu vois.
Oui, bien
même
sûr.
Si en contrat pro, forcément, t'as aussi une plus grosse responsabilité, machin, mais t'as quand même ce truc de...
Tu restes étudiante, quoi.
C'est ça. Ils doivent quand même garder un œil sur toi, faire des trucs avec toi. Et moi, je voulais pas que ça leur rajoute du poids. Et en fait, pendant ma deuxième année, j'avais fait des remplacements dans un centre maternel à côté de chez moi. Donc un autre, pas là où j'avais été en stage avant. Et donc je m'étais dit, au pire, je peux leur demander s'ils peuvent me prendre en tant que stagiaire. Parce que j'avais déjà fait une demande, du coup, pour mon stage de deuxième année, mais ils avaient déjà des stagiaires. Donc... Et puis avec le Covid, c'était compliqué. Donc du coup, je leur ai demandé et ils m'ont dit « Ok, ils m'ont fait passer un entretien. » Ils m'ont dit « Ok, on vous prend en stage. » Donc je me suis dit « Bon, c'est cool, j'ai trouvé mon stage. » Et puis je me suis dit « Bon, quand même, en stage, en plus c'était un stage de 4-5 mois, donc où t'es quand même gratifié et t'es pas payé beaucoup. » Et je me suis dit « Je vais être moins payée qu'en vacation et ils pourront pas me faire faire de vacation pendant que je suis en stage, tu vois, parce que sinon je vais dépasser le nombre d'heures. »
Oui, bien sûr. Ouais.
Et du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient prendre en contrat pro. Donc ce qu'ils ont accepté.
Ok.
Donc du coup, j'ai fait ma dernière année en contrat pro dans un autre centre maternel.
D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le contrat pro et du coup, quel rythme tu as eu ? Est-ce qu'il y a des différences par rapport au stage ? Est-ce que tu as des différences au niveau des vacances ou je sais pas ?
Alors du coup, quand tu fais ta formation en apprentissage, tu as soit le... contrat vraiment d'apprentissage, enfin l'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Mmh. En fait, il y a une différence au niveau de la paye, sinon c'est à peu près la même chose, on va dire. Et moi, mon école proposait que le contrat de professionnalisation. Et donc, en fait, mon stage, je le faisais du coup sur mon lieu de travail. Mmh. Et c'était mon employeur qui payait du coup ma dernière année de formation. D'accord. Donc, j'ai rien payé du tout pour ma dernière année de formation. C'était... l'entreprise qui payait. Et par contre, au niveau du rythme, alors je sais que dans certaines écoles, tu as vraiment une différence de rythme entre ceux qui le font en apprentissage et ceux qui le font en initial.
Ouais.
Tu vas être, je sais pas, une semaine sur deux ou deux semaines, enfin ce genre de choses.
Ouais.
Moi, mon école, pas du tout. Il n'y a pas de différence. Donc, ça veut dire que quand les autres étaient en stage, moi, j'étais chez mon employeur.
D'accord.
Et quand les autres étaient en cours, j'étais en cours.
Oui, il n'y avait pas de décalage.
Il n'y avait pas de décalage. Donc, des fois, je pouvais être 3 semaines complètes sur un mois chez mon employeur. Des fois, j'étais que 15 jours. Des fois, voilà. Après, du coup, il y a quand même une différence au niveau des congés, puisque j'avais le droit au congé trimestriel, du coup, que j'ai considéré comme, comme salarié.
Ouais.
Par contre, du coup, j'ai dû faire quand même un peu d'heures en plus pour pas avoir... parce que du coup, vu que c'est aussi ton nombre d'heures stage, pour pas avoir de différence et de pas avoir d'heures inférieures, on va dire. Tu vois. Donc, mais j'ai quand même eu mes congés trimestriels. Après, il y a quand même une différence de quand t'es stagiaire, parce que forcément, t'as ce truc où t'es quand même salarié de l'entreprise au final.
Mmh.
Et du coup, forcément, t'as un peu plus de responsabilité. Et moi, je suis arrivée dans une période assez particulière où, il y a eu un gros turnover dans le centre maternel où j'étais.
Okay.
Et donc, on était en sous-effectif. Donc, forcément, j'ai dû prendre, on va dire, une place assez vite, on va dire. Après, l'avantage, c'est que je connaissais déjà le travail parce que j'avais déjà été en centre maternel quand même avant, même si c'était un stage de 3 mois, mais j'avais déjà été en centre maternel, donc forcément, je savais ce qu'on y faisait. Et vu que j'avais déjà fait des vacations dans celui-là, je connaissais quand même une partie des jeunes femmes qui étaient accueillies. Et forcément, il y a aussi, comme je te disais, l'expérience du fait que j'avais déjà fait un stage de 3-4 mois en centre maternel.
Donc, tu n'arrivais pas non plus encore complètement novice sur le sujet.
C'est ça.
Et est-ce que le passage de étudiante stagiaire à salarié en contrat pro, donc en formation, ça a changé quelque chose pour toi en termes de légitimité d'intervention ? Tu parlais tout à l'heure de la confiance en toi. Est-ce que là, c'est venu un petit peu bouger les lignes?
Bah en fait, vu que mon stage de deuxième année s'était hyper bien passé, que j'avais pu prendre vraiment des responsabilités tout de suite, en fait, ça m'a déjà permis de vraiment prendre confiance en moi. Et donc, le fait de le faire en contrat pro ensuite, ma dernière année, ça m'a permis juste de continuer à me dire « Ouais, en fait, c'est bon, je suis prête. »
D'accord.
Donc ouais, ça a quand même permis que je puisse prendre confiance en moi.
Donc comment il se passe du coup comment elle on dit dernier stage ou dernière année de ouais, formation
ouais. Moi, j'étais en stage du coup parce
okay.
que c'est considéré comme un stage en soi.
Oui.
Mais bah, ça s'est super bien passé. Comme je te disais, bon, j'étais quand même arrivée dans une période particulière où on était en sous-effectif. Donc du coup, j'ai dû commencer à prendre pas mal de responsabilités tout de suite. Et puis, ma tutrice m'avait accueillie une semaine ou deux, et elle est partie en congé ensuite.
D'accord.
Donc du coup, j'ai dû prendre le relais de ces situations, et ça faisait 15 jours que j'étais là, je crois, un truc comme ça.
Ok.
Donc assez vite, après, mon chef de service m'a demandé de le faire, parce qu'il voyait quand même que voilà, je savais ce que je faisais.
Ouais,
j'étais
c'est
pas
ça.
En galère, je pense que si j'avais été en galère ou quoi, il aurait vu, il aurait demandé à un autre éducateur de me prendre avec lui le temps que, tu vois. Mais non, ça s'est super bien passé. Avec l'équipe, ça se passait super bien, avec les jeunes femmes aussi. J'ai vraiment pu accompagner seule, et cette fois vraiment seule, des jeunes femmes que je suivais. Sans être forcément avec ma tutrice ou quoi.
Et alors cette différence entre être toujours à deux et là seule, comment tu le vis?
Moi, j'ai super bien vécu parce que... Comme je disais, je pense que c'est aussi le fait d'avoir déjà été en centre maternel. Je savais très bien ce que je devais faire, sur les missions, comment je devais travailler. Donc non, je l'ai très très bien vécu. Ça s'est super bien passé. Et puis en plus, je sais que... Et moi, c'est des conseils que je donne aussi quand on me demande quand on va en centre maternel. Parce que c'est vrai que le positionnement, que ce soit en centre maternel ou quand tu travailles en milieu ouvert, c'est souvent, tu sais, les familles, quand ils voient que tu es jeune, qui vont te dire... que t'as pas d'enfants et tout. Et moi, je sais que j'ai toujours été très transparente avec les jeunes femmes avec lesquelles je travaillais. Et quand je savais pas, parce que bah, forcément, tu sais pas tout, surtout sur le développement de la petite enfance. Moi, je sais que j'ai eu très, très peu de cours là-dessus. Donc forcément, il y a plein de choses que je savais pas.
Mm-hmm.
Donc, du coup, bah, je leur disais, j'allais me renseigner. Et donc, en fait, du coup, ça se passait super bien parce que elles savaient que j'étais en formation quand même. Et en même temps, elles écoutaient ce que je pouvais leur dire et les conseils que je pouvais leur donner. Parce que elle sait que je suis en formation, mais elle savait que c'était aussi mon métier, tu vois ou pas?
Bien sûr, bien sûr. Ouais, je
donc
vois.
Ouais, non, ça s'était très très bien passé.
Super. Donc tu es diplômée en juin de cette année. Alors à quel moment, on fait peut-être un petit retour en arrière, mais à quel moment tu décides d'ouvrir ton compte Instagram, qui du coup est une mine d'informations que tu alimentes au quotidien sur plein de sujets, et qu'est-ce que génère chez toi un petit peu la transmission, enfin ce compte, les échanges, etc.
Alors moi, j'ai ouvert, donc c'est un compte que j'avais il y a quand même pas mal de temps, mais sur un tout autre thème, pas du tout sur le social.
D'accord.
Et en fait, j'ai tout supprimé un jour. Je me suis dit, pourquoi pas en faire un sur le social, parce que c'est aussi... j'adore parler de mon travail, tu vois. Genre, quand je suis avec des gens et tout, j'aime trop parler de ce que je fais, de mon travail et tout. Et bon, je pense que ça saoule les gens, et moi, j'aime trop ça. Tu vois, c'est un peu comme une passion, on va dire.
D'accord.
Et du coup, donc je crois que j'ai commencé à l'alimenter, vraiment à le tourner sur le travail social et l'éducation spécialisée. Je pense quand je suis rentrée en deuxième année de formation après mon DUT.
D'accord.
J'ai dû commencer peut-être en... Non, j'ai commencé pendant le confinement, parce que je me souviens, je parlais pas mal d'organisation pour le confinement. J'ai commencé pendant le confinement, à commencer à le tourner légèrement vers le social, et j'ai vraiment continué vraiment que le social, je pense quand je suis rentrée du coup à l'IRTS en deuxième année.
D'accord.
Et je me souviens que c'était en plus un gros stress, parce que je voulais pas du tout que les personnes de ma promo découvrent mon compte. Vraiment, parce qu'en plus, comme je disais, vu que je connaissais pas beaucoup de personnes...
Ouais, tu savais pas qui te suivait au final.
En vrai, avec les photos de profil et les noms, tu peux à peu près trouver, mais en fait, je voulais pas que ça sache, parce que j'avais... En fait, c'est aussi... le manque de confiance en soi et un peu la peur du regard des autres, où j'avais peur que de me faire juger par rapport à ça, par les gens de ma promo.
D'accord. Mais pourtant, tu t'alimentais... Enfin, je veux dire, tu faisais des publications sur des sujets, que ce soit la formation ou les politiques sociales ou des thèmes un peu plus précis. Donc, pour toi, il y aurait eu matière à sortir un jugement de ça ?
Je sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment une peur, tu vois. Et pourtant, bon, je pense pas, tu vois, qu'il y aurait eu de jugement ou ce genre de choses, mais en tout cas, j'avais pas envie que les gens de ma promo le découvrent. D'accord. Quand j'étais en formation. Donc, c'était un gros stress à chaque fois. Surtout quand mon compte a commencé à prendre de l'ampleur, quand il a commencé à passer les 1000 abonnés, puis les 2000, où tu te dis, ah ouais, quand même beaucoup de personnes, tu vois, encore quand il y avait genre 400, 500 personnes.
Bien sûr.
Ça va, tu vois, c'est encore un petit comité, on va dire. Mais quand ça commence à passer, quand tu commences à dépasser la barre des 1000, je pense que c'est là où je me suis dit, merde, il y a quand même moyen qu'ils me trouvent. Et surtout, une fois, petite anecdote, je partais en DSC de politique sociale, justement, en entraînement. Et donc, j'étais dans la lune, machin. Bref, j'allais en DST. Et là, d'un coup, il y a une fille qui s'arrête et qui crie un truc du style... Oh, mais je te connais, toi, je te suis sur Insta, je te connais d'Insta, je sais pas quoi, enfin, mais vraiment un truc. Mais en plus, dans le hall de l'école, tu vois, parce qu'en plus, la salle où j'allais en esthète, t'es dans le hall de l'école.
D'accord.
Donc, tu sais, vraiment là où tout le monde passe. Et je me souviens que vraiment, je l'ai regardé en mode le gros bug. En fait, c'était en deuxième année, parce que je crois que c'était en début de troisième année. Et en plus, le gros bug où je me suis dit, en plus, on avait encore les masques à ce moment-là, parce que du coup, c'était encore obligatoire dans les écoles.
Et oui.
Et je me suis dit, même avec mon masque, elle m'a reconnu, tu vois. Et je me suis dit, est-ce qu'elle parle vraiment de mon compte ou est-ce qu'elle me confond à quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, je l'ai même pas répondu et j'ai fui. Mais littéralement. Genre, je l'ai regardé en mode gros bug et j'ai tracé vers ma salle, tu vois.
Non, c'est pas moi.
C'est ça. Et je me suis pourvu que personne de ma promo ait entendu. Et en vrai, personne l'a entendu. Et du coup, je me sens que j'avais fait une story et tout. Et je me suis dit, ouais, si c'est vraiment moi et tout, j'espère envoyer un message. En plus, du coup, je m'en voulais de ouf, tu vois, d'avoir fui. Et du coup, et en fait, c'était bien moi, puisque du coup, elle a répondu à ma story et m'a envoyé un message. Et donc, c'était bien moi. Et je me suis excusée, tu vois, j'ai expliqué, elle a compris. Et en fait, c'était une première année. Et en fait, elle m'expliquait qu'il y avait une dizaine de premières années dans mon école qui me suivaient.
D'accord. Donc, en fait, t'avais peur de ta promo, mais au final, ça touchait les autres promos, quoi.
Ouais, après que sur les autres promos, ça me dérangeait moins, tu vois. Et au final, dans ma promo, personne ne l'a su.
D'accord.
Normalement. Okay. Parce que du coup, je sais que c'était moi avec d'autres personnes avec qui j'ai discuté une fois diplômée, une fois que j'étais plus en formation. Où je sais qu'il y en avait une qui m'avait demandé des conseils puisqu'elle passait un entretien pour un centre maternel, etc. Où du coup, à certains, j'avais dit, bah voilà, je tiens ce compte et tout, ça t'intéresse, machin. Mais avec des gens avec qui je discutais déjà avant, tu vois. Mm-hmm. Mais une fois qu'on n'allait plus à l'école, une fois qu'on était diplômés. Et d'autres, en fait, qui me suivaient sur mon compte Insta personnel. Et du coup, depuis que j'ai fini ma formation, je repartage des fois des publications en story sur mon Insta. Et donc, ils nous trouvaient comme ça, tu vois. Mais c'est parce que du coup, c'est moi qui leur ai donné.
Ouais, voilà, tu t'es exposée à ce qu'ils puissent te
trouver. C'est ça. Mais sinon, normalement, pendant ma formation, personne ne l'a su.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte comme échange, ton compte? Puisque du coup, effectivement, plus de 3000 abonnés, je crois. Donc, les échanges, j'imagine, doivent être assez riches. Voilà, qu'est-ce que ça t'apporte?
C'est hyper intéressant parce que moi, ça me permet de discuter avec des personnes qui sont déjà diplômées. Donc, aussi d'avoir un peu un retour sur de nos pratiques parce que forcément, je sais, c'est ce que aussi j'avais amené pendant une de mes certifications sur... on m'avait demandé justement ce que j'avais encore à apprendre et en fait, on apprendra toute notre carrière, tu vois, parce que c'est tellement large qu'on saura jamais tout. Et du coup, moi, ça me permet de continuer à apprendre, tu vois, que ce soit en échangeant avec d'autres personnes ou du coup en regardant d'autres comptes d'éducation spécialisée. J'apprends aussi de plein de choses. Et en fait, le fait de faire des publications, parce que j'en fais sur les sujets que je connais, mais j'en fais aussi sur des sujets que je maîtrise moins. Et donc, forcément, ça fait faire des recherches. Et donc, t'en apprends aussi en lisant des articles, en faisant des recherches sur certains trucs. Tu vas apprendre d'autres choses ou tu vas un peu plus analyser, tu vois, certains concepts ou certains trucs que tu connais, mais que tu t'es pas forcément trop renseigné dessus parce que t'en as pas eu vraiment l'utilité, tu vois.
Bien sûr.
Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que j'ai énormément de demandes et je sais que ça va bientôt commencer. J'appréhende beaucoup la période Parcoursup parce que, en fait, et c'est normal, t'as du coup tout le monde qui te pose des questions, tous ceux qui veulent s'orienter vers ce métier-là. Et parce que c'est vrai que t'as pas forcément beaucoup de choses pour préparer, tu vois, en soi, pour les euros d'admission, etc. Et moi, je pense que si j'avais eu, enfin, s'il y avait eu ce genre de compte qui s'était généralisé quand, avant que j'entre en formation, tu vois, j'aurais peut-être pu avoir ma place à l'IRTS directement, parce que j'aurais peut-être pu mieux préparer, on va dire. Et du coup, c'est vrai que bah, le fait de, bah, d'échanger avec des personnes qui veulent rentrer en formation, qui sont au tout début de leur formation, pour leur donner des conseils, c'est hyper enrichissant, parce que je sais que moi, j'aimerais beaucoup, d'ici peut-être 2 ou 3 ans, pouvoir faire jury d'admission. Enfin, jury d'admission, j'aimerais bien les faire cette année, j'essaie de voir avec mon école, mais faire les jurys de certification, avoir des guidances de dossier, tu vois, d'ici quelques années.
D'accord.
Et donc, ça permet aussi de mettre un petit pied là-dedans, on va dire, tu vois, de pouvoir aussi transmettre ce que toi, tu sais, et les petites connaissances que j'ai, tu vois, c'est toujours hyper enrichissant, tu vois, de pouvoir aider les personnes et pouvoir transmettre ce que je connais.
Bien sûr. Ok, tu as spoilé un petit peu une question que j'avais, que je m'étais notée quand tu es toute nouvellement diplômée. Je me demandais pour toi quelle question perdurait un peu aujourd'hui. Mais tu as dit là qu'on avait toujours à apprendre parce qu'il y avait tellement d'informations.
C'est ça.
Divers et variés dans notre travail, qu'effectivement, on a toujours à apprendre. Mais là, est-ce que du coup, il y a des choses pour toi qui restent un petit peu encore en questionnement depuis ton diplôme ?
Tu vois un truc, alors c'est pas forcément un questionnement, enfin je pense pas, mais je sais que par exemple, tu vois, bah, et je le sais parce que bah, je travaille là où j'étais en stage. Mm-hmm. Donc je sais que par exemple, quand j'étais en stage, à cause du Covid, j'ai pas pu faire d'audience.
D'accord.
Au niveau du juge.
Okay.
Et donc moi je sais que c'est un truc que j'appréhende aussi beaucoup parce que vu que j'ai pas pu, on va dire, entre guillemets, m'entraîner, enfin tu sais, avoir cette expérience d'aller en audience, etc. quand t'es en stage, bah là forcément je sais que je devrais en faire quand j'aurai des mesures qui vont arriver à échéance et me retrouver entre guillemets seule, tu vois. Et je sais que c'était des petits trucs comme ça où bah même si quand je suis arrivée, tu vois, quand j'ai commencé à travailler en CDD, je suis arrivée, on n'a pas eu à me former parce que j'ai fait un stage de 9 mois. Mm-hmm. Ça faisait qu'un an que j'étais partie, tu vois, donc je me souvenais de tout. J'étais prête dès que je suis arrivée, tu vois. Il n'y a pas eu ce truc de faut former la personne qui arrive, machin, parce qu'elle ne connaît pas. Mais en même temps, il y a plein de trucs aussi que bah, j'apprends parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas forcément pu voir en stage. Mm-hmm. Parce que bah, il n'y avait pas. Quand les situations.
Ça ne se prêtait pas, quoi, voilà, à voir des pas, choses.
C'est ça. Et par exemple, je sais que bah, quand je vais devoir faire mes premières audiences, ça va être un truc hyper nouveau, tu vois, pour moi, parce que je n'en ai jamais fait pendant ma formation, que ce soit en centre maternel ou bah, là où je travaille.
Ok, donc ouais, ça reste encore un petit peu...
Après, je n'ai pas trop de questionnements, parce que bon, je vais me faire taper sur les doigts, mais en formation, je n'ai pas eu non plus beaucoup de questionnements. Je sais que bah, justement, mon référent de suivi s'arrachait un peu les cheveux avec moi, parce qu'à chaque fois, il me disait « mais vous n'avez pas des questionnements ?» Et moi, je n'avais jamais vraiment de questionnement, tu vois, pur et dur sur le truc. Donc,
est-ce que c'est parce que du coup t'assimilais très bien ce qu'on pouvait te dire, ou est-ce que du coup de fait comme t'étais amené à avoir énormément d'échanges, est-ce que du coup t'avais au fil de l'eau les réponses à tes questions peut-être?
Bah, je pense qu'il y avait un peu de ça, que j'assimilais les choses, ou je pense que juste je me posais pas non plus trop de questions, tu D'accord. vois. Genre, il y a plein de trucs où, en fait, je vois que sur mon équipe où j'avais été en stage, là, actuellement, ils ont une stagiaire parce que, du coup, en fait, comme je te dis, on est 3 équipes, mais on est en open space.
Ouais.
Donc, en fait, on se voit tout le temps. C'est juste nos bureaux qui sont pas au même endroit, tu vois, mais on se voit tout le temps. Et donc, en fait, je sais qu'il y a une stagiaire et elle se pose énormément de questions, tu vois, sur un truc où c'est normal. Mais moi, ces questions, en fait, que je me posais pas parce que je me disais, ouais, c'est comme ça, tu vois, et on va pas le changer. Tu vois, sur des trucs. Tu vois, la question qu'elle avait posée, c'était par rapport. Je sais plus trop par rapport à quoi c'était, mais c'était par rapport au... Enfin, en fait, on est pas mal, on va dire, alors pas en conflit, c'est un peu gros comme mot, mais où nous, on a des situations où on veut placer les enfants parce que honnêtement, ils ne peuvent pas rester chez eux, parce qu'ils ne sont pas en sécurité chez eux. Et on a l'ASE, en fait, qui bloque beaucoup à ce niveau-là, parce que bon, au niveau des coûts, au niveau des politiques, enfin, au niveau de plein de choses, ils bloquent. Et en fait, elle se posait des questions par rapport à ça, où moi, en fait, je sais que je m'en posais pas, parce que je pense que je partais du principe que bah, c'était comme ça et que ça allait pas changer tout de suite. Et que bah, dans ma tête, je sais pas, je me disais, bah, à quoi ça sert de se questionner sur un truc qui vont pas changer ? Tu vois ou pas ?
D'accord, oui, je vois.
Et je pense qu'il y a plein de trucs où c'était un peu comme ça, tu vois.
Et est-ce que maintenant que t'es diplômée, est-ce que tu t'autorises à te poser ce genre de questions ? En tout cas, avoir un petit côté remise en question de la règle ou d'un fonctionnement ?
Bah, je vais pas dire que je me questionne parce que du coup, ça me questionne pas. Par contre, je vais plutôt le remettre en cause, tu vois, en disant que bah voilà, nous, ça nous bloque aussi dans notre travail. Mmh. Et c'est relou, clairement. Mais par contre, je vais pas me poser 10 milliards de questions par rapport à ça, en mode ouais, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au niveau des enfants, non, non, bah, je le sais, tu vois, que du coup, ça nous bloque au niveau des enfants et c'est hyper compliqué. Mais ouais, non, je vais pas forcément plus me questionner que ça.
Ok.
Et plus remettre en cause la manière que c'est.
D'accord.
Je sais pas si c'est très clair.
Oui, si, si, c'est clair. Ça marche. Donc là, tu es depuis finalement ton diplôme sur un autre service où tu avais déjà fait un stage sur le placement à domicile. Mmh. Tu as repris certaines références que tu avais.
C'est ça.
Ok, et donc la confiance en soi, la légitimité, une fois qu'on a le diplôme, qu'est-ce que ça donne?
Alors, je pense que l'avantage, c'est que, en fait, du coup, moi, donc, en fait, j'étais diplômée, j'ai su que j'avais mon diplôme précisément le 11 juillet, et j'ai commencé à travailler le 4 juillet.
Ok.
Donc, j'ai commencé quelques jours avant mon diplôme, ouais. Tu vois. Et en fait, comme je disais, j'ai commencé en CDD sur un remplacement d'arrêt maladie, en fait, d'une de mes collègues de mon équipe de stage.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, mes 3 premiers mois de travail que j'ai fait en CDD, j'étais sur mon équipe de stage. Donc, forcément, tu restes dans une zone de confort, en fait, parce que je retrouve mon équipe
mm-hmm.
avec une situation que je connais, enfin, 2 situations que je connaissais déjà, une que j'avais suivie et une que j'avais pas suivie, mais voilà, que je connaissais de loin, on va dire. Et du coup, 2 collègues qui étaient déjà là quand j'étais en stage et une nouvelle collègue, parce que du coup, qui remplaçait mon référent de stage qui était parti à la retraite. Donc forcément, c'était beaucoup plus simple parce que je restais dans ma zone de confort, en fait, sur une équipe que je connais.
Oui, t'es arrivé dans des petits chaussons, quoi, on va dire.
C'est
ça. Tu avais tes repères, ok.
C'est ça.
Mais ce qui n'est pas plus mal pour un premier job.
Et donc, je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, je connaissais le travail. Comme je te disais, je suis arrivée, j'étais direct prête, tu vois, à commencer. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas besoin de me former, je connaissais tous les outils qu'on utilise. Enfin, je connaissais en plus, c'était du coup ma chef de service de stage. Donc forcément,
C'était fluide.
Ouais, c'était fluide. J'étais prête dès que je suis arrivée.
Ok.
Et du coup, moi, j'ai changé d'équipe en octobre, au début du mois.
Ok.
Parce que du coup, ma collègue que je remplaçais revenait. Et où là, du coup, comme je te disais, en fait, on est en open space. Donc en fait, je suis juste sur le bureau qui est 3 mètres à côté, tu vois. Donc en plus, je passe mon temps, du coup, au niveau du bureau de mes collègues de mon équipe de stage parce que je passe mon temps à discuter avec eux. Donc, je suis souvent avec eux quand même. Mais du coup, c'était aussi assez simple parce que, comme je disais, donc j'ai quand même enchaîné 3 CDD avant. Donc, forcément, t'as ce truc de, j'ai fait 9 mois de stage, 3 CDD, je sais quoi faire.
Ouais.
Donc, forcément, tu vois, vu qu'en plus, j'ai pas de période d'essai parce que j'ai fait 3 CDD juste avant.
Mm-hmm.
Forcément, du coup, j'ai pu prendre des situations en main tout de suite. Donc là, tu vois, j'ai déjà 2 références. Okay. Et j'ai fait 3 semaines sur ma nouvelle équipe, j'ai déjà 2 références, dont, du coup... Une jeune que, la jeune dont je te parlais, que j'avais suivie quand j'étais en stage, dont je te parlais juste avant, pour la famille, c'est un peu compliqué. Et forcément, au niveau de la confiance en soi, je trouve que ça aide.
Ouais.
Comme je disais, je reste dans un truc que je connais. Je pense que si j'avais été embauchée dans quelque chose que je connaissais pas, ça aurait été peut-être plus compliqué, tu vois, au niveau de la confiance en soi. Et puis, après, il y a quand même eu, comme je disais, mes 2 stages... à l'IRTS qui m'ont quand même permis d'énormément prendre confiance en moi.
Mmh, bien sûr.
Donc ça aide aussi.
Combien de temps tu te vois œuvrer en protection de l'enfance?
En fait, je me vois pas travailler autre part qu'en protection de l'enfance.
D'accord.
Donc je pense jusqu'à ce que ça m'ait. Enfin, je pense que jusqu'au moment où je serai épuisée.
Ouais.
C'est parce que après, c'est quand même un domaine qui épuise au niveau des situations, au niveau de. Tout ce qui est au niveau des politiques, de. Enfin, il y a énormément de choses, tu vois, autres que aussi les familles.
Mmh,
tout ce qui est à côté,
bien sûr.
Peut être épuisant. Donc, je pense que j'y resterai jusqu'à ce que je puisse vraiment plus être en protection de l'enfance, tu vois.
Qu'est-ce que tu trouves le plus dur et le plus simple en protection de l'enfance, entre guillemets, dans le travail, en tout cas?
Ce que je trouve le plus dur, ça va pas être le travail en lui-même, tu vois, avec les familles ou quoi. Ça va plus être tout ce qui est à côté. Tout ce qui est au niveau... par exemple, des fois, sur des situations où tu lis le dossier d'admission et tu te dis, mais en fait, les enfants, ils n'ont rien à faire en placement à domicile, ils devraient être placés directement parce que il y a trop de trucs qui ne vont pas, tu vois. Il
mm-hmm.
y a trop de mises en danger, il y a... et où tu te dis, mais en fait, au niveau coût, tu vois, nous, ils nous mettent, parce que nous, on est à quoi, à 50 balles par jour. En Ile-de-France, un placement au foyer, c'est au moins 200 euros de prix de journée, tu vois.
Bien sûr.
Ou forcément, et puis en plus, le pire, c'est que les agents, en fait, ils le cachent même pas, tu vois. Par exemple, dans une situation, on a du coup en placement domicile, ça doit faire un an, je crois, qu'ils sont là. Et en gros, la référente ASE a dit devant la famille, bah, clairement, là, on renouvelle pour 6 mois, mais pas plus, parce que bah, le placement domicile, ça coûte trop cher maintenant. Et on n'est qu'à 50 balles par jour.
Oui.
Tu vois, c'est plutôt tout ce côté-là qui a été épuisant. Le fait de bah, toujours devoir justifier bah, que t'sais, l'enfant est en danger chez lui, alors que bah, on le voit bien, tu vois, que l'enfant est en danger chez lui.
Ouais.
Tu dois toujours
mais du coup, tu trouves que tu dois arriver voilà, dans des extrêmes pour être entendu. Et que
c'est ça, et, puis, ouais. Et tout le côté politique où clairement bah, voilà, l'État nous laisse un peu tomber, on va pas se le cacher. On n'a pas de moyens, on n'a pas de... Et ça, bah, je pense que c'est pas que la protection de l'enfance, c'est un peu le social en général, tu vois.
Est-ce que ça génère un peu de colère ou de frustration chez toi, et si oui, comment tu la gères?
Pas forcément pour moi, parce que moi je suis quand même dans une structure où on a quand même pas mal de moyens quand même. On a quand même un ordinateur professionnel, un téléphone pro, on a 150 euros minimum par mois par éduc pour faire des sorties, des activités, enfin des choses avec les familles, tu vois. Donc on n'est pas non plus franchement on est bien, tu vois.
D'accord.
Par rapport au centre maternel où j'étais en contrat pro, ça n'a rien à voir, tu vois, au niveau des moyens. Le centre maternel, on était il y avait 6 éducs, une stagiaire de 1 an plus moi en apprentissage, il y avait 2 ordis, tu vois.
D'accord.
On a tous 1 ordi chacun. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs où, bah, au niveau moyen, on est quand même bien, tu vois, je trouve.
Mm-hmm.
Mais quand je vois, par exemple, ma mère qui est en IME et ça fait 3 ans qu'elle est là-bas, et que ça fait 3 ans qu'elle se bat pour avoir des tables adaptées à ses enfants, et que son directeur lui dit, bah non, on n'a pas les moyens. Enfin, tu vois, c'est...
Mm-hmm.
Forcément, ça met un peu de colère et, ouais, et de frustration, parce que tu dis, même pour le bien-être des enfants, en fait, on n'a pas.
Mm-hmm.
Et tu vois, j'avais fait une admission la semaine dernière, et au final, le père, dans un sens, il avait raison. Il me disait que, bah, en fait, puisqu'en fait, sa fille avait d'abord été placée, et on me dit, on m'a retiré ma fille pour la protéger parce qu'elle était en danger à la maison, mais au final, elle se retrouve encore plus en danger au foyer, parce que, bah, malheureusement, avec le nombre d'éducateurs bah, en baisse, etc., bah, forcément, les enfants, au final, est-ce qu'on protège toujours autant les enfants? C'est pas sûr.
Et qu'est-ce que tu lui réponds, du coup, toi, à ce monsieur?
Alors, franchement, on n'a pas répondu sur le coup, parce que... Et franchement, je ne saurais même pas quoi répondre, tu vois.
Ouais, c'est délicat.
C'est
hyper délicat.
Bah, c'est délicat, parce qu'en soi, tu te dis, bah, dans un sens, il n'a pas tort. Et en même temps, tu ne peux pas le dire.
Oui, et
puis... Parce
que
ça te met aussi en défaut par rapport à ton institution, dans le domaine où tu travailles.
Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui serait en tout cas le plus facile pour toi?
Le plus facile pour moi, c'est le lien avec les enfants.
Mm-hmm.
Parce que, en fait, et pareil, bon, c'est un truc aussi que j'aurais pu mettre dans ce qui est dur, c'est ce que je disais un peu au début, c'est quand on a des familles qui sont contraintes de la mesure, bah, en fait, avec les parents, c'est hyper compliqué de travailler. Et en fait, souvent avec les enfants, et certains ados, les ados, ça peut être compliqué, ou ça peut être simple. C'est vraiment 1 sur 2. Avec les enfants, souvent, ça passe tout de suite. Parce qu'on est là, qu'on leur propose beaucoup de sorties, des activités, qu'on s'occupe d'eux aussi, entre guillemets.
C'est ça, de l'attention, une écoute.
C'est ça. Et c'est vrai qu'on avait remarqué avec mes collègues, quand j'étais en stage, qu'il y avait plein d'enfants, je crois, qui nous demandaient de venir au bureau. Mais tu sais, nous, au bureau, on n'a pas grand-chose. On a quelques jeux de société, mais on n'a pas non plus des trucs de foot, tu vois. Et des fois, nous voulait, tu sais, les emmener au parc, les emmener au cinéma, machin. Et je crois qu'ils disaient non, on va aller au bureau, on va aller au bureau. En fait, on s'est rendu compte que, bah, en fait, au bureau, c'est parce qu'il y a plein d'adultes qui font attention à eux.
Et bien sûr.
Et que pour certaines situations, des fois, chez eux, bah, en fait, ils n'ont pas ça, tu vois. Pas tous, mais il y en a certains pour qui, ouais, des fois, bah, chez eux, en fait, ils n'ont pas d'attention de la part de leurs parents, par exemple, tu vois. Donc, forcément, bah, je trouve que ce qui est hyper facile, ouais, dans mon boulot, c'est vraiment le lien avec les enfants, tu vois. Genre, souvent, il se fait hyper facilement.
Oui, pour toi, c'est pas une difficulté de créer du lien. Et puis tu le disais, le travail avec les enfants, t'aimes ça, donc
c'est
ok.
Ça.
Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux étudiants de première année ou en tout cas aux étudiants qui vont intégrer l'école ou ceux qui se posent des questions sur peut-être travailler dans le social, être travailleur social, donc toute formation confondue, mais qu'est-ce que tu aimerais leur dire si tu avais un message de jeunes diplômés à leur faire passer?
Bah, de pas hésiter à s'inscrire parce qu'en plus, là, on... Moi, je sais pas si tu as vu ça, mais il y a quand même une baisse des étudiants dans les écoles cette
Bien
année.
Sûr.
Et parce qu'en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui voient aussi que ça peut être très compliqué. Bah voilà, qu'on est mal payé, qu'on a pas de moyens, mais ça, dans tout le domaine du social, tu vois que c'est très compliqué à ce niveau-là et qu'ils veulent peut-être plus s'engager dans ce genre de métier. Mais comme aussi, comme les profs, comme dans beaucoup de domaines, tu vois, actuellement. Mais surtout de pas hésiter parce que c'est un métier qui, même s'il y a des situations qui sont hyper difficiles, tu vois, et des fois, mais tu sais, genre, des fois, je rentre chez moi, je me dis, mais où est-ce que je laisse les enfants, tu vois?
Ouais.
Parce que tu vois qu'il y a des enfants qui peuvent faire assez, et au final, c'est quand même un métier qui est hyper beau et qui est hyper enrichissant, t'es toujours au contact avec l'humain, donc t'apprends aussi beaucoup, tu vois, sur l'humain, sur toi-même aussi, sur des trucs où tu te dis, bah, peut-être que, sur des, comment dire? Des trucs où tu t'y arrives parce que c'est ton métier, tu te dis bah peut-être que ça n'avait pas été mon métier, j'aurais pas réussi à faire ça, tu
Bien
vois.
sûr.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ah ouais.
Mais ouais, non, t'apprends beaucoup, tu vois, dans ce métier, je trouve, et c'est hyper enrichissant. Donc ouais, de pas hésiter à s'inscrire. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui osent pas et qui ont... Parce qu'ils, tu sais, ils ont peur de la réconversion ou quoi, et qui ont peur, tu sais, de s'engager dans ce genre de métier et de pas... réussir à suivre toute la formation ou quoi, et enfin, faut surtout pas avoir peur de changer de voie, parce que bah, c'est normal, on peut pas savoir, on nous demande très tôt de savoir ce qu'on veut faire, on peut pas forcément savoir, et tout un truc, tu vois, moi, quand j'ai parlé de mon amie qui avait été en DUT avec moi, à qui je m'étais beaucoup confiée, justement, sur la situation de la petite fille dont je te parlais, elle a fait donc les 2 ans de DUT, elle a fait quoi, 6 mois en école de travail social, et elle s'est reconvertie, elle fait une école de théâtre maintenant, tu vois, parce qu'elle s'est rendue compte que bah, au final, c'était plus du tout ce qu'elle voulait faire. Et
D'accord.
c'est pas grave, c'est normal, tu vois. Donc quoi, ouais, de pas hésiter à s'inscrire et à suivre la formation.
Oui, puis il y a souvent plein d'adaptations possibles, suspendre une année, reprendre,
Ouais,
changer de
c'est ça.
stage, effectivement, ouais, ne pas hésiter. C'est un bon, c'est un bon conseil, je trouve. Avant de passer sur les 4 petites questions de la fin, alors tu l'as dit plusieurs fois, je ne me verrais pas faire autre chose, mais
Ouais.
moi du coup, je pose toujours cette question. Est-ce que si tu devais faire autre chose, qu'est-ce que ce serait? Rien du tout, du coup.
Bah, je ne sais pas. Je pense quelque chose dans les langues, peut-être.
D'accord.
Peut-être de la traduction ou un truc dans les langues. Peut-être, ouais, je pense que de la traduction. Parce que je sais que j'ai toujours été assez bonne en langue, tu vois, à l'école ou quoi. Mais ouais, sinon, je pense que c'est vraiment... Si vraiment je peux plus dans le
travail social. Si vraiment t'arrives au bout.
Et encore, parce que je me dis, en vrai, parce que je sais qu'on avait pas mal discuté avec certains de mes collègues où, tu sais, on se disait tous qu'on ne se voyait pas du tout chef de service. Et moi, par exemple, c'est un truc que je me verrais pas du tout être chef de service ou directeur. Et je me suis dit, si jamais vraiment le terrain, un jour, j'en peux plus, je pense que je finirais formatrice en école de travail social, tu vois.
Ok.
Mais ouais, mais si vraiment le travail social n'existait pas, je pense que ouais, peut-être que je serais allée vers un truc au niveau des langues.
Ok, c'est intéressant que tu dises que tu t'imagines pas chef de service ou directrice. Tu peux nous dire pourquoi pourquoi tu te projettes pas sur puisque du coup c'est encore dans le travail social, mais qu'est-ce qui
Ouais, mais alors tu vois, je trouve que quand t'es chef de service, encore plus quand t'es directeur, t'es plus trop sur le terrain. Et moi, si je suis devenue éduque, c'est plutôt pour être sur le terrain.
D'accord.
Et être vraiment, tu vois, chez les familles, enfin, tu vois, là où je suis. Et c'est vrai que je trouve que chef de service, c'est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est un peu ce qu'on disait avec mes collègues en centre maternelle. C'est qu'au-dessus de toi, tu as le directeur, tu vois, qui peut un peu te mettre la pression ou, tu sais, pousser sur certains trucs. Et en dessous, tu as les équipes. Et tu es un peu entre les deux, tu vois. Et des fois, ça peut être compliqué comme positionnement, je trouve. De ce que j'en ai vu, hein, après
bien sûr, oui.
la représentation à moi.
Bien sûr.
Et ouais, ce truc de tu restes dans un bureau à faire les plannings, en gros, enfin, tu vois, mon ancienne chef de service, du coup, de l'équipe où j'étais en CDD, elle était très bien, c'est vraiment une des meilleures chefs de service que j'ai eues. Mais tu vois, genre, par exemple, elle va voir les familles que pour l'admission, pour recadrer, enfin, tu vois, ce genre de choses.
Mm-hmm.
Et moi, c'est pas du tout ce qui me correspond.
Ok.
Donc voilà.
Non, mais d'accord, ok. C'est intéressant d'avoir les représentations de chacun sur ces fonctions qui restent dans le, voilà, dans le champ du travail social, ouais. Mais qui effectivement s'éloignent de fait par les missions du terrain. Et encore que du coup, je mets un petit bémol sur le fait de s'éloigner. C'est pas forcément, ça dépend peut-être comment... Ouais. Et investi le poste, mais en tout cas, on touche à d'autres sphères, c'est évident. D'accord. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais si je te donnais là, Emma, une baguette magique? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais voir bouger?
Bah, je pense que c'est un peu revenir à ce que j'ai tout à l'heure, mais je pense que j'essaierais de faire bouger un peu le système de protection de l'enfance aujourd'hui. Tu vois, pouvoir, essayer de faire en sorte d'avoir un meilleur système de protection de l'enfance.
Mmh.
Puisqu'on a aujourd'hui de mieux pouvoir protéger les enfants qui sont actuellement soit placés, soit sous des mesures en milieu ouvert, par exemple.
Mmh. Ok.
Ouais, je pense que ça peut être ça.
Ouais, ok. Ça marche. Alors, l'invitée précédente t'a posé une question. Et après, ça sera à ton tour de poser une question au prochain invité. Sa question, c'est: est-ce que c'est une vocation pour toi d'être dans le social?
Pour moi?
Oui.
Bah, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en même temps, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, souvent, on devient éducateur parce qu'il y a un truc dans notre passé qui a fait que... »
Mmh.
Tu vois, parce que soit il y en a parce qu'ils ont été placés, parce qu'il y a eu des événements qui ont fait que... Mais moi, je sais qu'il n'y a pas du tout eu ça, tu vois. C'est vraiment plus un concours de circonstances, on va dire, où je me suis plutôt questionnée sur... Tu sais, j'avais trouvé un métier, puis je me suis dit, moi, finalement, peut-être pas. Et vu que ma mère, tu vois, rentrait en formation, machin, peut-être que si ma mère avait jamais fait la formation d'éduc, peut-être que je ne serais pas devenue éduque, tu vois.
En tout cas, tu as été sensibilisée à ce métier à ce moment-là.
C'est ça. Donc, je pense que c'est pas forcément une... Enfin... Je sais pas si c'est une vocation. Je pense que ça dépend ce qu'on y met dans le terme de vocation.
Quelque chose de l'ordre de... Quelque chose que tu as toujours un peu senti en toi et que tu as réussi à mettre en exergue à un moment donné, ou quelque chose que tu as toujours voulu faire, tu as toujours su que tu voulais être travailleur social. Enfin, je pense que c'était un peu dans ce sens-là.
Ouais, je pense que c'est ça, mais... Ouais, franchement, je sais pas, parce que ce que je disais, c'est... Tu vois, genre, peut-être que si ma mère n'était pas donnée d'UXP, peut-être que j'aurais pas eu tout un travail social, tu vois.
Bien sûr.
Donc, je sais pas.
Ok, ça marche. Bon, on n'est pas obligé de savoir toujours précisément pourquoi on est là. Je te laisse poser ta question au prochain invité.
Alors, ce sera autour de, la visibilisation, ça se dit ?
Visibilité.
Ouais, le français, moi. Il ne plaît pas. La visibilité du travail social sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en pense? Puisque du coup, il y a quand même pas mal de comptes qui commencent à créer des comptes sur Instagram, soit sur TikTok, sur le travail social.
Mm-hmm.
Donc, qu'est-ce que le prochain invité en pense de cette visibilité du métier sur les réseaux sociaux?
Ok. Ça marche. Eh ben, c'est noté. Et effectivement, je te rejoins. Je découvre moi un peu tous les jours beaucoup de comptes qui parlent du travail social, et je suis très étonnée en fait. En tout cas, au début, ça a été vraiment ça a suscité de l'étonnement chez moi, parce que je pensais pas du tout que les réseaux sociaux seraient investis pour qu'on puisse parler du travail social.
Ouais.
Donc, je trouve ça génial.
Moi non plus, j'y pensais pas. Et c'est vrai que je sais que ça a pas mal commencé avec les comptes, beaucoup de comptes d'infirmières, tu vois, au départ.
D'accord.
Et puis, après, plutôt des comptes, plutôt tournés sur les EJE.
Ouais.
Et après, les EDUXP.
Ok, d'accord. Bon, je trouve que c'est très bien, puisque ça permet de toucher tout un public et d'informer, et de conseiller, etc. Mais...
Surtout pour les entrées, comme je te disais. Tu vois, moi, quand j'ai passé mon premier concours, je l'ai passé en 2018. Celui que j'ai pas eu et du coup j'avais pas de place en école.
Ouais.
Mais tu vois, à cette époque-là, il n'y avait pas ce genre de compte, tu vois, sur Insta. Donc là, au moins, les personnes, elles peuvent vraiment poser toutes leurs questions avoir vraiment les meilleurs conseils pour entrer en école, etc.
Mm-hmm.
C'est hyper intéressant.
Effectivement, c'est une mine d'informations qui est énorme, parce que je me souviens à mon époque, ça me fait mal de dire ça, mais à mon époque.
La phrase de vieux.
C'est ça, la phrase de vieux, mais c'était quand même il y a 10 ans, quand je suis rentrée à l'école. On n'avait pas accès à toutes ces informations, donc on faisait les journées portes ouvertes de l'école pour savoir un petit peu vers quelle formation aller. Et si on voulait... en savoir un petit peu plus sur le métier. Je sais que moi, certaines personnes de ma promo sont allées rencontrer des travailleurs sociaux quand vraiment on sort du bac et qu'on n'a aucune idée de à quoi ressemble un éduc ou une AS, par exemple. Voilà, ils allaient directement rencontrer des personnes, par exemple, au conseil départemental, dans les CCS, etc. C'était ça la marche à suivre, en tout cas ce qui se faisait. Et aujourd'hui, grâce au compte et notamment au tien que tu alimentes avec énormément de rigueur, et de presque, j'ose le dire, mais passion, ça laisse du coup un espace pour poser des questions, d'informations, et c'est hyper important pour essayer. En tout cas, tu le disais tout à l'heure, on est en baisse d'effectifs dans les promotions, notre secteur est peut-être devenu un peu moins attractif, je sais pas, ou il y a une transformation sociétale, j'ai pas encore trop d'avis là-dessus, mais peut-être que ça va permettre de susciter chez des personnes une envie, une de sensibiliser, enfin voilà, merci et bravo pour ce que tu fais, Emma, c'est très très chouette.
Et puis tu vois, quand tu disais, tu sais que ça permet aux personnes de poser toutes leurs questions, tu sais, genre des fois même moi on me pose des questions, tu vois, sur le truc, et des fois même moi j'ai pas la réponse, donc je me dis, ah ouais, c'est vrai que je pourrais, tu vois, me renseigner, tu sais, sur tel truc et tout, donc même pour moi, en fait, ça me permet d'apprendre de
des choses,
tu vois, tu sais, sur le truc où tu te questionnes pas forcément, parce que, bah voilà, et tu te dis, bah, finalement, en vrai, elle est pas bête, sa question, et c'est vrai que j'aurais pu m'y renseigner avant, tu vois.
Mais c'est du coup l'échange qui permet aussi l'enrichissement, ouais, bien sûr. Ok, merci Emma pour ton témoignage. J'espère que ça aura donné envie à des personnes qui n'osent pas encore se lancer dans le travail social, et que ça aura pu informer un petit peu les étudiants, voilà, sur le parcours un petit peu atypique, entre guillemets, que tu as eu. Bon courage pour voilà, ton travail, toute ta mise en mouvement de ta première année de poste. C'est souvent des années qui sont bien chargé, et puis à très bientôt.
Merci, à bientôt. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.